confession à vous faire. Hier soir, j'ai mangé deux cherry blossoms. Deux cherry blossoms. Il en reste 60 à peu près. OK? Il en reste encore une coupe. C'était mes premières de la semaine. On alterne entre le sport et la Wii Fit. Donc, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Mais j'étais en paix. Je ne vous le confesse pas comme un péché. J'ai consulté le Seigneur avant la deuxième. Demandez-moi pas comment j'ai su qu'il était d'accord, là. Ça, c'est entre le Seigneur et moi. Je veux juste vous partager que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu nous parle, Dieu parle à nos cœurs. Au début de la semaine, je vivais quelque chose dans mon cœur, puis à l'intérieur de moi, je n'avais pas le goût de m'aligner avec la volonté de Dieu. Je vivais un combat dans mon cœur, puis je ne voulais pas voir les choses comme Dieu les voyait. Et je l'admettais au Seigneur, mais je disais au Seigneur, je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût, Seigneur. J'ai besoin que ton esprit vienne me parler par ta parole pour que j'aie le goût, Seigneur. Et vous savez quoi? Chaque fois, et ce n'est pas la première fois que je parle comme ça au Seigneur, chaque fois, Dieu répond à mes prières. Et à travers la semaine, par différents passages des Écritures, dans mon cœur, il est venu placer cette conviction, ce désir de marcher dans ses voies, m'a montré l'idole qui était là dans mon cœur, et m'a accordé la grâce juste de dire, Seigneur, c'est bon, on la sort du temple. C'est à toi, Seigneur. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu sauve encore aujourd'hui aussi. Des beaux témoignages, des belles nouvelles cette semaine. J'ai été tellement, tellement béni, tellement encouragé. En même temps, j'aimerais ça vous demander de prier, premièrement, pour mon ami François Turcotte. François, qui travaille maintenant à Sambec. Je vous parle des fois de lui. Il a perdu son père cette semaine. Et ça va être un deuil particulier pour François. Je l'ai partagé un petit peu dans mon cours tout à l'heure. Mais François n'était pas prêt de son père. Son père vivait dans l'alcoolisme depuis une trentaine d'années. Donc, il n'était pas du tout prêt de son fils. François est fils unique. Certains d'entre vous, vous rappellerez que François a perdu sa mère il y a quelques années déjà, Colette, qui était parmi nous ici. Et on avait une retraite une semaine avant avec Stéphane Gagné, François et moi, comme on fait deux fois par année. Puis on demandait à François, comment tu vis tout ça? Là? Tu sais que le Seigneur s'en vient chercher ton père, il avait un cancer généralisé. Est-ce que tu te sens pas orphelin? Et vraiment, Dieu a béni François dans le sens que François vit vraiment cette vérité que Jésus lui-même a exprimée lorsqu'on lui a dit, mais ta mère, tes frères, tes sœurs sont là. Puis Jésus a dit, ouais, non, mais mes frères et sœurs, ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et donc, François a trouvé dans l'Église de Christ une famille extraordinaire, même s'il reste d'autres personnes de sa famille autour de lui. Et pour lui, des frères comme Stéphane et moi, on est ses frères. Il ne se sent pas comme un fils unique, mais il se sent vraiment comme ayant des frères, littéralement. Mais quand même, si vous voulez prier pour lui, que Dieu puisse le bénir. Il avait témoigné à son père, mais sans aucune certitude. Et donc, il va devoir aussi négocier ça avec le Seigneur dans la prière. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier aussi pour Christina, qui traverse un deuil aussi. Vous avez reçu un courriel qui l'a mentionné, mais on ne t'a pas offert nos sympathies publiquement. Je suis allé te voir là-bas, tout ça, mais on t'offre nos sympathies, nos prières sont avec toi. Et j'aimerais ça qu'on puisse tout de suite se courber dans la prière. D'accord? Mon Dieu, tu es vivant. Tu fais encore des choses extraordinaires aujourd'hui. Et il en sera ainsi jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus, et pour l'éternité. Seigneur, tu es puissant et tu parles à nos cœurs. Tu transformes des vies. Tu sauves des vies, Seigneur. Tu fais des miracles encore aujourd'hui, Seigneur. Je suis reconnaissant de ce que tu as changé. Cette semaine, encore une fois, mon cœur idolâtre, Seigneur. Tu es venu saisir, Seigneur, ma volonté, me convaincre de pécher, Seigneur, et m'accorder la force pour sortir cette idole de mon cœur, de ma vie. C'est l'œuvre de ton esprit pour me donner cette soif de sainteté, cette soif de me soumettre entièrement à ta volonté, de voir les choses comme toi, Seigneur. de penser comme toi, Seigneur. Tu es vivant. Tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu consoles aussi. Tu consoles par ton esprit qui habite en nous, Seigneur. J'aimerais te prier pour Christina, pour Pierre, pour la famille. J'aimerais te prier, Seigneur, afin que tu apportes ta consolation encore et encore dans les semaines et les mois à venir, Seigneur. Que l'œuvre de ton esprit et la proximité de la famille de Dieu soient évidentes dans son cœur et dans sa vie, Seigneur. Qu'elle trouve un réconfort en toi. Viens faire cette œuvre en elle par ton esprit. Je te le demande, Père. Viens, Seigneur, te manifester à elle d'une manière significative au cours des prochains mois, Seigneur. Qu'il y ait une grâce sur son âme, Seigneur. De même, je te prie pour mon ami François, qui est orphelin et qui pourtant ne l'est plus, Seigneur. Parce qu'il a un Père qui veille sur lui. Toi, notre Père. Et il a une famille qui est autour de lui. Je te demande, Seigneur, d'amener la paix et le repos dans son âme. Et de te servir, Seigneur, de ses épreuves, de ses douleurs, pour façonner ce frère et cette sœur, Seigneur. François et Christina, façonne-les davantage à l'image de Christ. Et viens sauver dans leur famille, Seigneur. Viens sauver. Viens sauver, Seigneur Jésus. Entends leur prière. Viens sauver, Seigneur. Viens faire la différence. Père, je te prie d'être avec nous ce matin alors que nous nous penchons sur ta parole et que nous adressons ce sujet concernant l'Église qui est tellement important à mon cœur, Seigneur, à notre vision de ce corps que tu construis, que tu bâtis. Je te prie, Seigneur, de me remplir de ton esprit afin que ce que j'ai à dire soit clair, soit profondément biblique, Seigneur, mais que tu précèdes tout ce qui est dit par une œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Convainc-nous, Seigneur, d'entrer dans ton projet. Et Seigneur, s'il y a des gens parmi nous ce matin, et il y en a sûrement, qui ne te connaissent pas, Jésus, comme leur Sauveur et Seigneur, dans ta grâce, comme toi seul sais le faire, viens les sauver. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous mentionne en passant que notre frère Alexandre Marquis n'est pas avec nous ce matin, puisqu'il est en train d'apporter le message de la parole de Dieu à l'église de Beauport. Et donc, il va enseigner encore là ce soir. C'est pratiquement son église mère, ça on pourrait dire. Et c'est des gens qui s'investissent en lui, qui le soutiennent aussi. Et c'est une joie pour lui d'aller apporter le message de la parole là-bas. Alors, on a commencé une série, Le chrétien upgradé, qui veut dire en fait, le chrétien perfectionné, amené à l'image de Christ. Et par cette série, on veut vous communiquer, on veut chercher à communiquer à l'Église pourquoi nous faisons ce que nous faisons dans cette assemblée. Et le but derrière ça, c'est que vous soyez participants avec nous, que vous entriez avec nous dans cette vision. Et on cherche à ouvrir les Écritures pour voir que cette vision de l'Église, du fonctionnement de l'Église, est profondément biblique. Ça vient de la parole de Dieu. Je vous rappelle que notre destination, comme je viens de le dire, c'est de devenir comme Jésus-Christ. La mise à niveau, l'upgrade est majeur. Notre destination individuelle et comme Église, comme corps de Christ local, est de devenir à l'image de Christ. De devenir comme lui dans nos attitudes, nos comportements, notre pensée, notre manière de servir, notre manière de voir le temps, l'argent, les relations, notre passage sur terre. Nous voulons penser comme lui, être comme lui, être transformé à son image. Ça, c'est la destination, devenir comme Jésus-Christ. C'est un upgrade majeur, c'est une transformation majeure que Christ veut faire. C'est le projet de Dieu. D'accord? Et on ne doit pas perdre ça de vue. Ce n'est pas quelque chose qu'on va atteindre par nos propres forces, en forçant un peu plus, en mettant un peu plus de discipline. On va y arriver, on va être comme lui. Non, c'est le projet de Dieu. Dieu l'a initié en envoyant son Fils mourir sur la croix. Sans le sacrifice de Christ, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de transformation à l'image de Christ. L'Esprit de Dieu ne vient pas habiter en nous. C'est le projet de Dieu. C'est lui qui l'a initié. Et parce qu'il l'a initié, c'est lui qui s'est engagé à l'accomplir. Ce projet-là, il l'avait conçu de toute éternité. C'est son dessein, c'est son projet, c'est lui qui va l'accomplir en nous. Ce qu'on est en train de voir à travers ces semaines-là, c'est comment nous pouvons collaborer avec lui, entrer dans son projet pour l'Église et pour nos vies, plutôt que de résister à l'œuvre que Dieu veut faire en nous. C'est son projet, c'est ce qu'il veut faire. Est-ce que je vais participer avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que je vais avancer avec l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que je vais résister à l'œuvre qu'il veut faire en moi? On a vu ensemble que c'est un projet d'Église. Ce n'est pas quelque chose qui se vit seul, chacun de notre côté. Dans Éphésiens 4, nous avons vu ensemble que c'est tout le corps qui doit participer à cette croissance. Dieu ne cherche pas à produire des super Yannick, super Jonathan, super Esther, super Stéphane, qui, waouh, sont extraordinaires chacun dans leur milieu, autant qu'une super communauté qui, par ses relations les uns avec les autres, projette l'image de Christ, ressemble à Christ. Ainsi, lorsque les gens entrent en contact avec cette communauté, entrent dans nos foyers, apprennent que nous sommes en relation les uns avec les autres, découvrent cet amour qu'il y a au milieu de nous, qui est vraiment extraordinaire et surnaturel, qui ne s'explique pas par un intérêt quelconque, sinon Christ qui nous transforme à son image. C'est un projet d'Église. C'est dans cette vie mutuelle, dans le fait qu'on va s'investir dans des relations les uns envers les autres, qu'il va y avoir cette transformation. Le christianisme individuel, ce n'est pas biblique. Ça se vit ensemble. Dieu fait une œuvre dans nos cœurs individuellement et il fait une œuvre dans nos cœurs au milieu de nous par nos relations ensemble. C'est un projet d'Église. Et c'est pourquoi nous ne devons pas fuir les relations. Et généralement, lorsque nous fuyons des relations, parce qu'on est tous tentés de le faire, on s'entend, on entre en relation avec l'Église, on espère trouver un oasis, un endroit où on va venir reposer notre âme, de toutes sortes de pressions qu'on vit dans le monde, de toutes sortes de tensions qu'on vit au travail, à la maison, quoi que ce soit, et on s'en vient dans l'Église et on dit, enfin, un oasis où je vais venir me reposer. Et qu'est-ce qui nous frappe assez rapidement? C'est une gang de pécheurs, ils sont tordus, ce monde-là. Et la tentation est là, extrêmement forte, de fuir les relations, me retirer et dire, Seigneur, on va vivre ça ensemble, toi et moi, parce que toi, tu ne me laisseras pas tomber, Seigneur. Et généralement, lorsqu'on se retire comme ça des relations, généralement, nous sommes en train de fuir une œuvre que l'Esprit veut faire dans notre cœur. Parce que c'est l'outil par excellence qu'il utilise, sa parole et nos relations ensemble. Et lorsque je décide de me retirer, de m'isoler, la parole dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Trop difficile, trop douloureux. C'est un projet d'Église, il ne faut pas fuir les relations. C'est là que ça se passe, cette sanctification, entre autres. Ce matin, je veux voir avec vous deux principes. Ça va prendre la grâce de Dieu pour qu'on voit les deux. Deux principes qu'on cherche à appliquer dans cette assemblée. Comme j'ai dit, la série vise à expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Deux principes ensemble qu'on trouve dans la parole de Dieu, que nous cherchons à appliquer dans l'assemblée. C'est rien de nouveau que je vous apporte, ce sont des choses que nous faisons. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être le voir sous un jour nouveau. Ça va peut-être être plus clair. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour que vous participiez avec nous. Que vous soyez pas seulement des observateurs de cela, mais que vous soyez véritablement participants avec nous. Le premier principe nous vient de l'Ancien Testament. Tournez avec moi dans Exode 18. Exode 18. On va appeler ce principe le principe de Jéthro. Et le second principe, on va l'appeler le principe de Timothée. Si vous avez besoin d'une Bible, seulement levez la main. On a des frères et sœurs qui vont se faire plaisir de vous passer une Bible dans Exode 18, s'il vous plaît. Exode 18, verset 13. Mais simplement pour se mettre dans le contexte, on retrouve Moïse ici, qui est celui qui est responsable de conduire le peuple de Dieu. Et Moïse avait un beau-père qui s'appelait Jéthro. Pas Jéthro de travail, mais Jéthro. Et donc, Jéthro est venu en visite pour, en fait, reconduire son épouse. Moïse était allé seul en Égypte. Et donc, ramener auprès de lui sa famille. Et là, il est en train d'observer ça. Ça devait être quelque chose d'absolument fantastique de voir cette masse, ce peuple immense qui était là en train de s'organiser, de se structurer. Et Jéthro assiste à une journée normale dans la vie de Moïse et du peuple d'Israël. Jéthro voit Moïse toute la journée avec le peuple qui est là à enseigner, à conseiller, à juger dans des situations. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que Dieu a donné sa loi, Dieu a donné sa parole à Moïse. Et là, le peuple a décidé, ils ont déterminé, nous, on veut faire la volonté de Dieu, on veut marcher avec Dieu, on veut appliquer les préceptes de la parole de Dieu. Alors, ils vivent des situations très pratiques, très concrètes, et ils disent, bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Comment on doit agir? Et donc, ils viennent vers Moïse pour que Moïse les conseille. Maintenant, ils ne sont pas comme 300, comme nous ici ce matin. Non, non, il y a du monde. Il y a du monde qui ont des questions pratiques. Comment on applique la parole de Dieu dans cette situation-là? Moi, je veux faire la volonté de Dieu, Moïse, mais donne-moi un conseil. Puis là, on a un conflit, puis on ne sait pas ce que la parole de Dieu nous dit de faire dans cette situation-là. Et donc, il y a une ligne de personnes qui sont devant Moïse. Jéthro est là, et puis il observe ça, puis il voit à quel point Dieu a donné sa parole à Moïse. Puis Moïse conseille avec sagesse. Dieu est avec lui, c'est clair, mais il y a du monde en ligne. Ça n'a aucun bon sens. Jéthro voit la charge de travail qu'il y a sur les épaules de Moïse. Mais non seulement ça, j'ai trouvé tellement sage l'intervention de Jéthro. Jéthro voit aussi le peuple qui attend et attend et attend pour pouvoir consulter Moïse. Et il se dit avec énormément de sagesse, mais ça n'a aucun bon sens ce que tu fais là, mon vieux. Ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de faire là. C'est pas sage. Ce n'est pas sage ce que tu fais. Exode 18, verset 13. Et on va lire jusqu'au verset 18. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. D'accord? Il enseigne la parole de Dieu. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Ça vous donne une idée de la ligne d'attente? Vous savez, c'est CLSC. On arrive avant l'ouverture, puis tout ça, on commence la ligne. OK? Mais fois 10, d'accord? En général, vous avez passé avant la fin de la journée au CLSC, on s'entend. 14, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Il dit, je leur explique ce que Dieu veut qu'ils fassent dans telle ou telle situation. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Jéthro regarde Moïse puis il dit, ça n'a pas de bon sens, mon homme. Tu vas te crever à la tâche. Mais ce n'est pas juste ça. C'est que tu vas épuiser les gens qui sont là. Tu vas les épuiser parce qu'eux vivent des situations concrètes, réelles, qui demandent un conseil. Ça demande une intervention. Et vous savez quoi? Je ne pourrais jamais me comparer à Moïse avec la charge qu'il avait, mais je peux tellement comprendre. Tellement comprendre. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui veulent nous rencontrer, rencontrer un des anciens. Et ces gens-là ne vivent pas des... C'est pas comme, Yannick, je faisais mon culte cette semaine, tu sais, puis j'ai pas tout à fait compris. Là. Ça, c'est le fun. On fait ça le dimanche matin, comme ça, avant que le culte commence. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est cute, c'est le fun. Non, mais il y a des gens qui ont des questions pas mal plus pressantes que ça. C'est parce que Yannick, on a un conflit à la maison, il y a un conflit dans notre couple, on ne sait pas comment s'en sortir. Où on se tourne dans la parole? Là, on est en train de discuter ensemble puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là. J'ai une situation avec mon enfant, j'ai besoin de conseils, c'est urgent. C'est là que ça se passe. La crise est maintenant. C'est maintenant qu'on souffre. Voyez-vous, les gens qui viennent, ce n'est pas tout avec des questions théoriques. Il y a des vraies situations avec des vraies vies, avec de la vraie souffrance, qui demande une intervention, un conseil immédiat. Et Jéthro est là, puis il dit, « Oui, mais ça n'a aucun bon sens. Là. Il y a quelqu'un qui a attendu pendant 8 heures pour que tu puisses appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Puis là, toi, tu étais là, quand il est arrivé devant toi, il a eu compassion de toi. Il est rentré avec sa femme. Ils font tant à part ce soir. Ils vont revenir demain matin. Ils espèrent être les premiers dans la ligne. » Ça n'a pas de bon sens, Moïse. Ça manque de sagesse. Ça n'a aucun bon sens la manière que tu es en train de gérer ça. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Et vous savez quoi? Quand Dieu vous donne un cœur de parent, j'allais dire un cœur de berger, mais tous les parents, vous pouvez comprendre ça. Quand vous voyez une situation de besoin dans le cœur de votre enfant, il y a une espèce de souffrance qui est là parce qu'il y a une urgence de vouloir intervenir, d'aller aider. Je vois ma fille qui ne va pas bien, qui a besoin de conseils, qui est troublée dans son cœur. Je souffre jusqu'à ce que je sache qu'elle va mieux. Mais lorsque Dieu t'a donné un cœur de berger, tu ne peux pas être informé de situation sans le porter sur ton cœur. Et c'est correct, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Il nous demande d'aller apporter ça dans la prière, intervenir, conseiller. C'est ce que Dieu nous demande. Mais quand tu termines la journée et tu dis, « Oui, mais il y a telle situation, je ne sais pas si quelqu'un est en train de s'en occuper. Là. Puis il y a telle autre situation, je n'ai pas réussi à les appeler cette semaine. Puis il y a telle autre personne qui attend un coup de téléphone, mais là, à un moment donné, il faut que j'aille voir mes enfants, faut que je les aide à faire leurs devoirs. » Puis je ne parle pas juste de moi, je parle des anciens, mais quand Dieu t'a donné un cœur de berger, là, savez-vous quoi? C'est lourd. C'est insupportable parce que ton cœur est encore là. Hein? C'est pas parce que tu ne t'es pas rendu au rendez-vous que tu n'es pas avec la personne dans ton cœur. Paul le disait, il portait les églises sur son cœur. Quand Dieu t'a donné un cœur de berger, c'est comme ça que tu vis cela. Et quand les gens veulent être conseillés avec la lumière de la parole de Dieu, amen, c'est ça qu'on veut. Moïse voyait cette ligne de personnes qui étaient là. Je veux dire, est-ce que Moïse va se plaindre que les gens veulent savoir comment appliquer la parole de Dieu dans leur vie? Ils ne sont pas en train de consulter des idoles égyptiennes. Il va savoir comment appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Alléluia, c'est génial! Oui, mais je me suis juste rendu au 354e aujourd'hui. Il en reste 200. Qu'est-ce que je vais faire? Et Jéthro regarde ça, puis il dit, mais ça n'a aucun bon sens ce que tu es en train de faire. Ça manque de sagesse. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple. Malgré toute la compassion de Moïse, malgré tout son amour, c'est la réalité qu'il vivait. Malgré toute la compassion que Dieu m'a donnée, tout l'amour qu'il a placé dans mon cœur, c'est la réalité que je vis. Et je sais que ma réalité est bien petite à côté de celle de Moïse. C'est la même chose pour les anciens. Des gens qui vivent des vraies situations qui demandent une véritable intervention maintenant. Et le conseil de Jéthro est plein de sagesse. Il lui dit, voici ce que tu vas faire, tu vas impliquer d'autres mondes là-dedans. Verset 19. « Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. C'est bon, va rencontrer le Seigneur. Porte les affaires devant Dieu. Va intercéder pour les gens. Vas-y, fonce. Enseigne au peuple les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Maintenant, voici. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi si tu fais cela. Et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Laissez-moi faire de l'allégorie ou une allégorie ce matin. Notre destination à nous, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Notre destination, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Et si nous voulons parvenir à cela, il va falloir que nous soyons un grand nombre à nous conseiller les uns les autres, à nous aider les uns les autres. Le conseil de Jéthro est applicable et plein de sagesse dans l'Église. Si nous voulons parvenir à notre destination, devenir comme Christ, ce n'est pas quatre gars qui aiment le Seigneur, le conseil des anciens, les pasteurs de cette Église, qui vont être les seuls à former des disciples de Jésus-Christ. Autrement, on va s'épuiser et on va épuiser le peuple qui attend le ministère de l'Esprit dans sa vie. Alors c'est vrai, Hugo avait raison de dire la semaine dernière, les gars, les anciens, levez-vous. et de dire à l'Assemblée, suivez ces hommes-là, prenez leur exemple. Amen, c'est vrai, c'est vrai. C'est des hommes de Dieu que le Seigneur vous a donnés. Je vous le dis, j'en témoigne. Mais en même temps, le conseil de Jéthro est tellement, tellement, tellement plein de sagesse. Et c'était vrai à l'époque de l'Ancien Testament. Maintenant, si on s'en va dans le Nouveau Testament, selon moi, c'est encore plus applicable. Selon moi, c'est encore plus vrai. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur certaines personnes, des rois, des prophètes, des chefs, des juges qui devaient intervenir dans une situation précise. On voit même lors de la construction du temple que l'Esprit de Dieu venait sur des personnes pour accomplir une tâche quelconque. On est dans l'Ancien Testament. Ce qui a changé profondément lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, justement, c'est que chacun d'entre nous, tous ceux ici qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si vous ne dites pas un amen là-dessus, on retourne à une ancienne erreur qu'on a tous connue, la majorité d'entre nous, qui est véhiculée dans l'Église catholique. I'm the holy guy. Moi, je suis le curé en avant. Moi, j'ai une connexion spéciale avec Dieu. Pas vous autres, les amis. Quand vous voulez passer au confessionnal, vous venez rencontrer le holy guy qui est en avant, le curé. Vous comprenez? Si vous ne dites pas amen là-dessus, qu'on a tous l'Esprit Saint et qu'on est tous appelés à faire une œuvre les uns envers les autres, on retourne dans l'Église catholique ensemble, qui véhicule cette idée qu'il y a certaines personnes qui ont une connexion spéciale avec Dieu. On l'appelle le curé. Le frère André. Merci Bertrand, le frère André. Connexion spéciale avec Dieu. Et vous savez quoi? Des fois, il y a des gens encore qui viennent me voir et ils me disent « Ah, Yannick, j'aimerais ça que tu pries pour moi. » Puis c'est super, je vais prier pour ça. Ajoutez pas la France parce que toi, là, Yannick, le Seigneur entend tes prières. Ça me fait de la peine, honnêtement. Je vous le dis, ça me fait de la peine. Et vous savez quoi? Moi, je connais des gens dans cette église qui sont beaucoup plus des gens de prière que moi. Vous viendrez me voir, je vais vous dire qui aller voir. Mais ce serait encore une erreur. Ce serait encore une erreur. Parce que si vous avez l'Esprit Saint, vous l'avez la même connexion que moi. C'est ma responsabilité de prier pour vous. Je n'ai pas de connexion spéciale, je suis désolé. Je ne suis pas un curé. Tous ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance, qui ont cru en Jésus-Christ, ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'était précisément le plan et le projet de Dieu que son Esprit vienne vivre en chacun de ses enfants. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Éphésiens 4 que c'est tout le corps qui participe à la croissance, selon la force de chacun, selon les dons spirituels de chacun, selon la force qui convient à chacune de ses parties, selon la maturité de chacun. On s'entend, mais c'est tout le corps qui doit participer à cela. Alors voyez-vous, c'est une bonne chose qu'on s'assemble le dimanche matin pour louer le Seigneur ensemble, puis avoir des enseignants qui enseignent la parole de Dieu. C'est une bonne chose parce que Dieu a donné des dons d'enseignants à certains. Dieu a placé un appel sur leur vie. Amen, c'est vrai. C'est juste une partie du projet de Dieu, ça, les amis. Parce que le projet de Dieu, c'est que tout le corps participe ensemble. Et pas seulement dans des ministères de service, mais dans des ministères les uns envers les autres. Dans notre assemblée, nous appliquons ce conseil de Jéthro comment? Dans les petits groupes. C'est comme ça qu'on applique ce conseil de Jéthro. Et tout ceci a plein de bon sens à mes yeux, aux yeux du conseil, parce qu'il y a dans un petit groupe un nombre d'individus qui ont reçu l'Esprit Saint et qui grandissent dans la connaissance de Dieu. Vous savez, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit à des chrétiens de longue date, il dit à ce point-ci, les copains, vous devriez tous être des maîtres. Je ne pense pas qu'il est en train de dire, vous devriez tous être des pasteurs. Je ne pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire, à ce point-ci, vous devriez tous être des maîtres, capables d'ouvrir la parole avec un frère, avec une sœur, plonger les regards dans la parole, puis dire, regarde, je vais prier avec toi pour que Dieu t'aide à appliquer ça dans ta vie. Capable d'aller vers un frère, vers une sœur, puis dire, moi aussi, j'ai passé par là, je le sais, laisse-moi pleurer avec toi. Laisse-moi t'accompagner, laisse-moi juste intercéder avec toi. Capable d'aller visiter un frère, une sœur à l'hôpital qui vit, qui traverse une épreuve, puis juste aller la consoler, lui apporter une parole de consolation. Et ça, ces choses-là se vivent à l'intérieur du petit groupe, où vous allez être exposés au ministère les uns des autres, d'une manière très naturelle, parce qu'on s'assemble, On mange ensemble. Si vous venez chez nous, c'est un bon cappuccino en plus. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la parole. On prend des nouvelles les uns des autres. Et on ne perd pas de temps lorsqu'on prend des nouvelles. On est en train de s'enquérir pour prier ensemble les uns pour les autres. Ensuite, on va dans la prière les uns avec les autres. Lorsqu'il y en a un qui s'absente, on s'inquiète. On dit, mais qu'est-ce qui arrive avec lui? On prend des nouvelles, on l'appelle le mois suivant. On prend encore des nouvelles. Lorsqu'on voit quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, il ne parle pas cette semaine, il n'y a pas un mot à dire, il est fermé sur lui-même. Qu'est-ce que tu dirais qu'on est prendre un café ensemble cette semaine? On va juste ouvrir la parole. Voyez-vous, selon les Écritures, nous sommes tous appelés à faire des disciples, d'une manière ou d'une autre, selon les dons de chacun. Les dames âgées sont censées enseigner les dames plus jeunes. Tous, nous sommes censés, à un certain moment donné, devenir des maîtres, des instructeurs dans la foi. Dans un petit groupe, il y a énormément de sagesse. Énormément de sagesse. Parce que souvent, dans un petit groupe, une assemblée comme celle-ci, écoutez, ça fait. Il y a combien de personnes ici qui ont 10 ans de vie chrétienne? Juste levez la main, s'il vous plaît. OK, gardez la main levée, ceux qui ont 15 ans de vie chrétienne. 20 ans? 25? 30 ans? Pensez-vous sérieusement, après 30 ans, que l'Esprit-Saint habite en vous, que vous lisez les Écritures, que vous lisez la parole de Dieu, que vous êtes enseigné comme on le fait dans une assemblée comme celle-ci, on expose la parole, on ouvre les Écritures. Avec toutes les épreuves, tous les combats que vous avez vécus, vous ne pensez pas qu'il y a énormément de sagesse dans un petit groupe? Je vous l'assure parce que je l'observe depuis des années, il y a énormément de sagesse. Il s'agit simplement de la faire sortir, de se conseiller, de s'écouter, d'intervenir, d'apprendre à connaître nos dons, de se servir les uns les autres mutuellement. Les petits groupes ne répondront pas à tous les besoins. Il y a des choses qui se font lorsqu'on va rencontrer un frère, une sœur, on est un à un, on partage deux, trois personnes. Il y a des choses qui se disent juste là. Tu ne dis pas ça dans un petit groupe, ce n'est pas approprié, ce n'est pas le moment pour faire ça. D'accord? Il y a des choses qui ne se font pas dans un petit groupe comme l'enseignement qu'on fait actuellement, l'enseignement qu'on fait pendant les cours bibliques. Ça ne se fait pas de la même manière dans un petit groupe. C'est correct. Les petits groupes ne répondront pas à tous les besoins. Mais les petits groupes, c'est cet endroit où vous allez prendre soin les uns des autres par la grâce de Dieu, avec l'œuvre de l'Esprit-Saint dans vos cœurs. C'est là qu'on va s'inquiéter des absents. C'est là qu'on va s'encourager à ouvrir la Bible. C'est là qu'on va prier les uns pour les autres. C'est là qu'on va confesser aussi des défis qui sont devant nous. J'ai de la difficulté avec mon boss. J'ai le goût de retourner à mon ancienne vie puis régler le problème comme je le faisais avant. Je ne vois pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers cette plaie-là qu'il a mis dans ma vie. Ça se partage dans un petit groupe et on prie les uns pour les autres. Dans un petit groupe, on accueille les personnes nouvelles dans une assemblée. Il n'y a rien de plus désolant que de voir quelqu'un qui vient visiter une église comme ici. Et après quelques semaines, il y a 3-4 personnes qui ont dit « Hey, t'es nouveau, toi, salut. On se revoit dimanche prochain. On se revoit dimanche prochain. » Et vous savez que ça peut durer longtemps comme ça, hein? Ça peut durer un an. Ça peut durer 2 ans. Parce qu'il y a plein de monde ici que vous avez l'impression que c'est la première fois que vous les voyez, peut-être. La vérité, c'est que ça fait peut-être un an qu'ils viennent dans l'église ici. C'est terrible, c'est désolant. Comment est-ce qu'on va faire pour être en relation les uns avec les autres? Certaines personnes vont dire, ben, c'est pour ça que moi j'aime une petite église. Tu veux dire parce que le curé est disponible pour toi? C'est ça que tu veux dire? Quand c'est assez petit, le curé est disponible, c'est ça que tu peux aller le voir. Fais attention, je comprends, c'est le fun, je comprends. Ça me fait toujours plaisir, hein? Si je peux m'asseoir avec vous, ouvrir la parole avec vous, c'est une joie pour moi, c'est toujours une grâce pour moi. Mais faites attention au mensonge qu'il y a là. Faites attention, il y a un mensonge. Il y a une forteresse que Dieu veut faire tomber, qui atténue l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, qui nuit à notre transformation à l'image de Christ. Il n'y en a pas de curé ici. Il n'y a pas de connexion spéciale avec le Seigneur, sinon quand on est en règle avec le Seigneur. That's it, c'est fini là, c'est tout. Et donc, si nous devons accueillir des gens et atteindre notre communauté, atteindre Longueuil, intégrer des nouvelles personnes qui viennent assembler, qu'ils puissent jouir de cette communion qu'on a dans la famille de Dieu, ça va passer par les petits groupes. Autrement, vous savez ce qui va se passer. On va entendre de plus en plus des gens qui disent « Ah, mais c'est pas possible de voir un pasteur dans cette église-là. » Ah, mais le pasteur, tu le rencontres juste quand il y a une grosse crise dans ta vie. C'est le conseil de Jéthro, les petites crises, c'est dans le petit groupe. Les grosses, faites-vous-en pas. Le dirigeant de petit groupe va en parler à l'ancien responsable. On va se rendre là tôt ou tard. Mais oui, à quelque part, si ça nécessite une rencontre avec un des anciens, c'est peut-être qu'il y a un gros problème. C'est peut-être qu'il y a un gros problème. Parce qu'il y a plein de gens qui ont l'Esprit Saint autour de toi et ils n'ont pas pu aider. C'est peut-être parce qu'il y a un gros problème. Et voyez-vous, il y a un autre mensonge qui vient avec ça. Le gars qui est en avant, lui, c'est un expert. Lui, c'est un expert. Mais maintenant, nous, on a une belle situation pour vous, que vous sachiez que c'est faux. Quand je suis rentré dans le ministère, est-ce que j'étais un expert? Vous savez que vous êtes tous mes cobayes. C'est un laboratoire de formation pour Yannick Étier ici. Vous comprenez? Les premières fois que les gens sont venus me voir, ils me regardaient et ils disaient, « Ça fait combien de temps que tu es dans le ministère, toi? C'est toi qui vas me conseiller. Ah, » Il y a juste moi, hein? Ok, t'es le pasteur, t'as peut-être une connexion spéciale. On va écouter. Ah, oh, come on. Come on. En voyez-vous, comment est-ce qu'on développe cette expérience-là, cette connaissance-là à travers les années? Parce qu'elle est là, c'est vrai. C'est vrai, ça fait comme 15 ans bientôt que je rencontre des gens qui vivent des difficultés, puis que je suis là, puis en silence, je suis là avec un gros sourire, puis je prie, puis je dis, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Je ne sais pas, pantoute, on s'en va. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, Seigneur. Oui, oui. Là, tu fais de l'écoute active. Ça, l'écoute active. Tu fais de l'écoute active. Oui, parle-moi de ça encore un petit peu plus. Là, tu cries, tu sais. Quand ça fait 15 ans que tu le fais, bien, à un moment donné, ah, tu commences à catcher une coupe d'affaires. Ah, là, tu dis, ouais, c'est vrai, peut-être qu'on devrait faire ça. Regarde, on va ouvrir ça. J'ai déjà eu 3 cas comme toi à date. Fait que, on va tourner ici. Ah, c'est vrai, il y a de l'expérience qui rentre avec le temps. Amen. Mais elle vient d'où? Vous êtes mes cobayes. Vous avez tous souffert de ma croissance. Ah, voyez-vous, si dans 5, 10, 15 ans, hein, par la grâce de Dieu, 3, 4, 500 personnes de plus ont été conduites au Seigneur et sont en train d'être formées comme disciples de Christ. Il va falloir qu'il y en ait d'autres qui deviennent des experts. Hein? Et c'est vous. C'est vous. Parce qu'après 5, 10, 15, 20 ans, selon l'auteur de la lettre aux Hébreux, vous devriez tous être des maîtres. Ça veut dire qu'on va prendre des risques ensemble. Je vais prendre le risque de partager quelque chose à mon petit groupe avant d'aller en parler au pasteur ou à un des anciens. Puis juste ouvrir ça, développer ce réflexe de dire, je vais aller voir quelqu'un de sage dans mon petit groupe et dire, peux-tu m'aider, peux-tu m'accompagner là-dedans? Et cette personne-là saura dire, après un temps de prière ensemble, quelques rencontres, de dire, sais-tu, je ne sais pas vraiment où aller là-dedans? De consulter son dirigeant de petit groupe, va en parler avec son ancien. Ça se peut que vous rencontriez un ancien? Ça se peut qu'on se rende là, c'est bien, c'est correct, c'est notre joie, ça, c'est notre passion, rencontrer des gens. Mais en même temps, c'est lourd pour nous de savoir tant de gens qui ont besoin d'intervention et qui peut-être les ont pas parce qu'on est encore dans un ancien paradigme, dans une vieille manière de penser. Il y a un holy guy en avant. Si je peux réussir à avoir un rendez-vous avec lui, là, l'Esprit Saint va commencer à travailler. Oh, pitié. Pitié, si vous saviez comme c'est pas vrai. J'apprends moi aussi, en suppliant l'Éternel, de me conduire lorsque je rencontre les gens. C'est le premier principe, le principe de Jéthro. Et je vous demande cette semaine d'évaluer si vous êtes en train de vivre ça dans l'Église. Si vous n'êtes pas dans un petit groupe, courez pour aller dans un petit groupe. Si vous êtes dans un petit groupe et vous allez là comme si vous alliez juste à une étude biblique, changez votre mode de pensée, ce n'est pas ça le plan de match. C'est un endroit où vos dons vont s'exercer, vous allez prendre soin les uns des autres, vous allez être là les uns pour les autres. C'est le premier principe. Le conseil que Jéthro a donné. Et on veut l'appliquer dans cette assemblée. Et si nous devons atteindre l'orgueil, c'est parce que Dieu va nous accorder la grâce d'appliquer ça ensemble. Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas dans un petit groupe, vous lui faites une jambette tantôt, vous l'amenez par la cravate jusqu'à la table là-bas. Michel vous attend. On a des cordes, on les attache jusqu'à temps qu'il soit dans un petit groupe. C'est bon? Deuxième principe, principe de Timothée. Le principe de Timothée. Encore une fois, rien de nouveau. Rien de nouveau, mais quelque chose d'extrêmement important. Notre mandat, c'est de former des disciples de Jésus-Christ qui vont observer tout ce que Jésus a enseigné. Maintenant, si on regarde à Jésus, comment est-ce que Jésus s'y est pris pour le faire? Jésus s'est investi dans un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont allés et qui se sont investis en d'autres hommes et d'autres femmes. C'est comme ça que Jésus l'a fait. Il s'est investi dans un groupe limité d'individus de manière intime. Vraiment, il est entré en relation avec eux et il les a regardés chicaner, il intervenait dans les chicanes. Il les a regardés être incapables de faire la volonté de Dieu. Il est intervenu, il les a conseillés. Il les a regardés sortir leur épée, il a dit « Non, non, c'est pas le temps, range ça. » Ça, c'est de la formation de disciples. Jésus faisait la formation de disciples avec un groupe limité d'individus. Les autres avaient un rendez-vous au mille-mille. Si seulement je peux toucher à sa robe, juste à cette tunique, je vais être guéri. C'est le seul rendez-vous qu'elle a eu avec Jésus, vous comprenez? Parce que Jésus ne s'est pas vraiment investi dans sa vie au-delà de ça. Mais les apôtres, les disciples, eux, ils s'étaient investis dans leur vie. C'est ce que Jésus faisait, il s'investissait dans un nombre limité d'hommes et de femmes qui sont allés à leur tour former d'autres personnes. Paul a fait la même chose à tous les niveaux. Paul l'a fait avec les nouveaux croyants, Paul l'a fait avec les leaders en formation. Paul s'investissait, il avait Timothée, il avait Tite, plusieurs autres autour de lui. Paul était constamment en train de se reproduire en d'autres personnes. Il formait des disciples. Paul avait toujours un Timothée à ses côtés, tout le temps, constamment. Maintenant, c'est un principe qui remonte pas mal plus loin que ça. Pensez à Moïse et Josué. Pensez à Moïse et Josué. Je veux dire, Josué avait le privilège d'assister au culte personnel de Moïse. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation avec Dieu, Josué était juste là au-dessus, puis il regardait, puis il assistait à ça. En plus, il trichait. Quand Moïse partait, il disait, « Moi, je reste avec Dieu. » Mais voyez-vous, c'est comme ça qu'on forme des gens, en ayant un Timothée à côté de nous. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui vient de la vie de François Picard. Quelques-uns d'entre vous, vous l'avez entendu. J'ai demandé sa permission avant de vous en parler. Vous allez comprendre un petit peu notre illustration qu'on a ici avec cette salle de chirurgie. François Picard, c'est le directeur de SEMBEC, le séminaire de formation pour les ouvriers au Québec. Et François, à l'âge de 27 ans, a commencé à éprouver un malaise physique dans une région critique chez l'homme. D'accord? Ça remettait en question sa possibilité d'avoir des enfants éventuellement. Est-ce que je suis assez précis? Et donc, il y avait un malaise sérieux comme ça, à cet endroit-là. Et donc, il est allé consulter le médecin. Maintenant, en deux semaines environ, il avait 27 ans à l'époque, en deux semaines, François Picard s'est fait dire par le médecin, ça prend une intervention chirurgicale maintenant. Il ne comprenait pas trop c'était quoi. Il pensait qu'il voulait faire une intervention pour aller voir vraiment c'était quoi le problème. Il s'est fait accompagner par quelqu'un qui avait étudié en soins infirmiers, un infirmier avec lui, lorsqu'il est allé à son rendez-vous médical, et puis il y avait ses papiers, puis l'infirmier a commencé à regarder ses papiers, puis il dit, « François, c'est parce qu'il pense que tu as peut-être un cancer. » Le choc, hein? Fait qu'en deux semaines, mon frère François se retrouve à l'hôpital, se prépare pour l'intervention, et il apprend que c'est possiblement un cancer, il apprend possiblement qu'il ne pourra pas se reproduire, avoir des enfants. Il faut connaître François pour comprendre comment Dieu parle à François. Alors, François est préparé pour l'intervention par les infirmiers et tout ça, et puis on l'amène dans la chambre où il va être opéré pour qu'il réalise qu'à ce moment-là, il y avait comme 4-5 médecins autour du lit, d'accord? Qui était à peu près dans... Je trouve vraiment c'est une super photo. C'est pas une photo que François a pris, là, mais quand même. Tu sais, ça donne une bonne idée, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez que c'est pas un grain de beauté qui allait se faire enlever? En tout cas, pas au visage. D'accord? Et donc, François a simplement dit à son médecin, il a dit, écoutez, c'est un peu quand même délicat, c'est un peu intimidant cette situation-là, je suis un peu nerveux parce que ça peut être vraiment dangereux. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on soit comme seul? Et le médecin lui a dit, écoutez, M. Picard, ici, c'est un hôpital universitaire. Il y a constamment des gens en formation ici. Et Dieu a enseigné une leçon de vie chrétienne extrêmement importante à François. Par la grâce de Dieu, ça a été une intervention sans conséquence. Et François a un fils, juste pour que vous le sachiez. Mais quand François est sorti de là, voyant la possibilité qu'il ne puisse jamais se reproduire lui-même et avoir des enfants, et qu'il a vu cet hôpital universitaire qui formait des médecins en acceptant de vivre l'inconvénient de mettre de côté une certaine pudeur, François a décidé à partir de ce jour-là qu'il allait toujours, autant que c'était possible, quand il y avait quelqu'un disponible, avoir quelqu'un à côté de lui en formation, dans le ministère pastoral. Et depuis ce jour-là, partout où François a servi, il a expliqué à l'Assemblée, si vous venez me voir, vous venez me rencontrer, par la grâce de Dieu, il va y avoir quelqu'un à côté de moi, quelle que soit la situation que vous vivez. Parce qu'ici, on est une église universitaire. On est en train de former d'autres personnes. Et par la grâce de Dieu, il va y avoir quelqu'un qui est tenu à la confidentialité, qui va être là dans une situation qui peut être malaisante au départ, mais on est là pour votre formation. Et il a toujours appliqué cela. François m'a raconté cette histoire-là alors que j'étais en train de lui parler. On était à l'église Emmanuel à Montréal. Et puis, de plus en plus, à travers les dernières années, je vis une tristesse et une frustration grandissante. Tantôt, je vous ai dit le fardeau qu'il y a sur mon cœur de voir des situations où on n'arrive pas à l'intervenir parce qu'il y a des gens qui ont besoin, mais je veux dire, à un moment donné, on a fait toutes les heures possibles, puis il faut quand même aller dormir quelques heures. Donc, on ne se rend pas jusqu'au bout de la ligne pour rencontrer les gens, et je vis ça. Mais il y a une autre frustration, une autre tristesse qui s'est ajoutée à ça. Parce que c'est vrai, ça fait bientôt une quinzaine d'années que je sers, et par la grâce de Dieu, il y a certaines choses que j'ai apprises. Et de plus en plus, je me retrouve parfois dans des rendez-vous où, au départ, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que je vais conseiller, je ne sais pas exactement, mais j'ai quand même appris après 15 ans que toi, tu le sais, puis je vais te faire confiance. Puis Dieu fait des belles choses, c'est extraordinaire, je suis émerveillé par ce que Dieu fait. Puis là, les gens s'en vont, puis ils sont dans la joie, puis on est encouragé, tout le monde, tout ça. Puis moi, je suis triste et je suis frustré. Parce que je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté de moi ici pour apprendre? Tantôt, je vous ai dit que vous êtes mes cobayes, mais vous devez réaliser qu'il y a plein de monde ici que j'ai conseillé. J'étais tout seul, puis je ne l'avais jamais faite. Et j'étais avec ma théorie, puis en train de dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai appris seul sur le tas. Vous m'excuserez la comparaison. Mais je vis cette frustration de dire, mais comment ça se fait qu'il n'y avait personne à côté de moi? C'est tellement extraordinaire ce que Dieu a fait. Il fallait qu'il apprenne de ça. Comment ça se fait que j'avais personne à côté de moi? Et donc, j'applique ce principe d'avoir un Timothée en formation depuis des années dans ma vie. Je m'investis dans la vie d'autres personnes. J'essaie de les impliquer dans mon ministère, mais pas encore assez. Et dans les derniers mois, j'ai commencé à le faire beaucoup plus. Et soyez pas surpris si vous venez me voir, qu'il y a quelqu'un qui soit en formation à côté de moi. Soyez pas surpris s'il y a un ancien qui vient vous visiter, il y a quelqu'un en formation à côté de lui. S'il n'y en a pas, moi, je vais le chicaner. Parce que je vais te dire, tu es en train de gaspiller de la formation. Tu es en train de gaspiller un précieux trésor. Il devait y avoir un Josué à côté de toi dans cette situation-là, un Timothée pour apprendre à côté de toi. Maintenant, plus loin que ça, plus loin qu'une frustration juste dans ma vie, nous désirons voir ceci s'appliquer dans toute l'Assemblée, dans toute l'Église. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous vous demandiez régulièrement qui est mon ou ma Timothée à côté de moi. Dans tous les domaines. Il y a des gens ici qui savent prier. Je ne vous demanderai pas de lever la main, ça manquerait d'humilité, mais moi j'en connais quelques-uns et quelques-unes. Vous savez prier. J'espère que vous ne priez pas toujours seul. Parce que vous savez prier. Aménagez des moments dans votre semaine où quelqu'un va prier avec vous, va entrer dans la tente d'assignation, si je peux dire, avec vous pour apprendre à prier avec vous. Il y a des gens ici qui servent, qui sont responsables de ministère. Ils savent comment encourager des gens dans le service. Denis, où est-ce qu'il est Denis? Denis a un don d'encouragement. C'est un administrateur, c'est vrai, mais Denis a un don d'encouragement. Denis, je ne sais pas c'est qui dans Timothée. T'es où, Denis, là? Arrête de te cacher. Il est là. Ma question pour toi, Denis, c'est qui ton Timothée que tu es en train de former? Qui t'accompagne avec toi? Danny, c'est qui ton Timothée qui est à côté de toi? Rachel, c'est qui ta Timothée qui est à côté de toi? Michel, qui est-ce que tu es en train de former? Qui est à côté de toi? Et vous savez quoi? La beauté là-dedans, c'est que ça n'a pas besoin d'être la personne qui va prendre le relève. Ça, ça n'a absolument aucune importance. Alors, vous pouvez aller aussi loin que de dire, bien, je vais aller prendre quelqu'un qui est tout jeune dans la foi. Ça change tellement ma manière de penser à moi que le prochain groupe de disciples que je vais former, une des conditions, vous savez, si je vous approche, ça va faire partie des conditions, tu dois avoir 3 heures pour moi par mois, non booké. Moi, je vais t'appeler et tu vas venir avec moi faire une visite à l'hôpital. Moi, je vais t'appeler et tu vas venir prier avec moi 3 heures. Moi, je vais t'appeler et tu vas venir avec moi pendant que je vais préparer mon sermon. Tu vas voir comment j'étudie la parole de Dieu. Moi, je vais t'appeler, tu vas venir avec moi lorsqu'on va aller rencontrer un frère qui ne va pas bien, qui est en train de s'éloigner. Qui est ton Timothée, ta Timothée en qui tu es en train de te reproduire actuellement? On devrait toujours être en train de le faire. Qu'on soit en train de servir dans un ministère structuré de l'Église, qu'on soit en train d'exercer nos dons simplement dans l'Église. Une visite à l'hôpital, un temps pour rencontrer un frère, ça va tellement loin que cette semaine, je disais à Danny, on parlait d'une sœur dans l'Église qui... Dieu a donné de la maturité, de la sagesse. Puis j'ai dit à Danny, là, Danny, il faut que tu me trouves une sœur ou deux qui ont juste du temps à passer avec elle. Juste trouver des sœurs qui vont aller faire des commissions avec elle. Puis qui vont aller faire une visite avec elle. Juste pour être là, tu sais, comme Josué était là. Et j'ai pas besoin que ce soit la personne qui va prendre la relève. Si je vous invite avec moi, vous n'avez pas besoin d'être le prochain pasteur de l'Église. Comprenez? C'est juste être là pour apprendre, qu'on soit en train de se reproduire. Et donc, on devrait tous se demander, mais qui est mon Timothée? Qui est ma Timothée à côté de moi? Constamment, parce que c'est comme ça qu'on forme des disciples de Jésus-Christ. On ne forme pas un disciple en faisant un cours sur la prière théorique, puis en disant, OK, on va aller chacun chez nous, on va aller prier. OK, on fait un cours d'évangélisation théorique. C'est ça la beauté avec le cours qui se donne ici. On applique vraiment ce principe-là. Imaginez un instant que le cours qui se donnerait ici, ce serait, on va sortir un tableau, on va vous expliquer comment faire de l'évangélisation, puis aller appliquer ça cette semaine. Ouch! Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va faire le cours ensemble, puis on sort ensemble. Maintenant, on va faire de l'évangélisation. Amen! C'est comme ça qu'on forme des disciples de Christ. Et voyez-vous, ce principe-là doit s'étendre à toute l'assemblée. Parce que vous avez des années de vie chrétienne, des années de maturité. Vous savez faire des choses, vous connaissez des dons spirituels que vous avez. Monsieur Lévesque, vous avez un don de service. Amenez un serviteur avec vous. Amenez-en un qui n'a pas le don de service. Il va apprendre c'est quoi avoir le don de service. Je peux vous le dire, Monsieur Lévesque. Madame Lévesque, vous avez un don de compassion. Vous devez entraîner des gens avec vous lorsque vous allez aimer les gens, quand vous avez des petites attentions. Parce qu'il y a des cœurs durs ici qui ont besoin d'apprendre c'est quoi la compassion. Amen. Et c'est comme ça qu'on va se reproduire les uns les autres, qu'on va former des disciples de Christ. Après, lorsqu'on se tourne et on dit à quelqu'un, « Peux-tu prendre la relève? » Il est déjà dans le service. Alors, on applique ce principe-là actuellement dans l'Église au niveau de la formation des leaders. Moi, je suis constamment en train de coacher des gars qui sont en train de coacher des gars. On commence à l'appliquer au niveau de la formation de disciples. On ne fait pas la formation de disciples un à un dans cette assemblée. Le moins possible, on fait la formation de disciples 3-4 ensemble. Parce que les gars qui sont en formation apprennent à animer, les filles qui sont en formation apprennent à animer à leur tour. Et lorsqu'on leur dit, veux-tu commencer à former quelqu'un d'autre, c'est pas si difficile. J'ai cette joie-là. Moi, j'ai cette joie de m'être investi pendant 2 ans dans la vie de Simon. Puis Simon, depuis 6-7 mois, est en train de s'investir dans la vie de 2 autres gars. Vous pouvez pas imaginer la joie que ça fait. Parce que je vois l'œuvre de Christ qui est en train de se perpétuer. Et là, je dis, là, je suis en train de former un disciple de Christ. Parce qu'il est en train de former des disciples de Christ. Amen. Frères et sœurs, si on doit grandir, il ne faut pas fuir toutes ces relations-là. Ce matin, je vous ai parlé juste de relations. Mais la tentation est là. De venir ici le dimanche matin, d'aller lire des bons livres chrétiens, puis d'essayer de vivre notre vie chrétienne le mieux possible chacun de notre côté. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va grandir. Ça va nous garder dans un ancien paradigme, une ancienne manière de voir les choses. Et vous allez toujours me voir comme le holy guy en avant. Si je peux avoir un rendez-vous avec lui, ça va changer ma vie. Ouf, je demanderai à ma femme, elle a des rendez-vous toutes les semaines. Ça change sa vie, mais peut-être pas de la bonne manière. On ne doit pas fuir les relations, on doit aller dans les petits groupes. Et je vous demande de le faire. D'embarquer avec nous dans ce projet tellement sage de Dieu. Et on doit chercher à avoir des Timothées constamment en qui on est en train de se reproduire. Je vous mets le défi de chercher cette semaine comment chacun d'entre vous, vous pouvez avoir un ou une Timothée à côté de vous à différents moments, différentes personnes, dans différentes occasions, pas seulement vos enfants, d'accord? Et on va avancer ensemble et on va atteindre heureusement cette destination de devenir comme Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, viens changer, je t'en prie, notre manière de penser. Viens changer notre vision des relations. Viens casser notre individualisme. Viens casser nos vieilles manières de voir l'Église, Seigneur, pour entrer dans ton projet, comprendre que ton esprit a été donné à chacun de tes enfants et que nous sommes tous appelés à exercer des ministères les uns envers les autres, à nous conseiller, à nous instruire, à prier les uns pour les autres, à veiller les uns sur les autres, Seigneur, afin que nous grandissions à ton image, Christ. Et afin, Seigneur, que le royaume de Dieu prospère ici à Longueuil, que nous atteignions, Seigneur, de nouvelles âmes pour toi, que nous formions des disciples de Christ, Seigneur. Et ça va être notre joie de les voir grandir à ton image parce qu'ils marchent avec nous, vivent avec nous, Seigneur. Vivent avec nous dans les petits groupes, dans notre service. Viens changer notre manière de penser, Seigneur. Aide-nous à réaliser la grande œuvre que tu veux faire au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ que je te prie.